Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Nous allons lire les versets 30 à 36. Jean, chapitre 8. Nous commençons la lecture au verset 30. Et voici la parole de Dieu. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et jusque-là, la parole de Dieu. Le 28 août 1963, Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream »,« J'ai un rêve ». Et ce discours se termine avec les paroles d'un chant « enfin libre, grâce en soit rendue à Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres ». Bien sûr, Martin Luther King faisait référence à son espoir de voir une Amérique libre de toute forme de racisme. D'autres personnes se réjouissent d'une autre liberté. Ils sont libres d'une addiction, libres de toute maladie chronique, libres de dettes. L'être humain est avide de liberté. C'est le premier mot dans la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. C'est l'article premier des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. À l'intérieur du socle de la statue de la liberté, on trouve un poème qui est gravé et qui contient ces paroles. Et l'auteur imagine la statue de la liberté qui s'adresse au vieux continent, à l'Europe, et qui dit « Donne-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables, aspirant à vivre libre. » Mais le plus grand libérateur que le monde ait jamais vu est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour libérer. Si donc, verset 36, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le premier point que nous voulons souligner, c'est le plus grand esclavage. Le plus grand esclavage. Dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui est engagé dans un long débat avec les pharisiens au sujet de ses affirmations et de ses revendications. Qu'il est le Messie promis. Et à un moment, un groupe de personnes exprime sa foi dans ce que Jésus dit, et Jésus se tourne vers ce groupe de personnes pour l'enseigner. Verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Mais l'idée qu'ils avaient besoin d'être affranchis, d'être libérés, va provoquer chez eux une objection. Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» C'est une réponse qui est plutôt étonnante. Parce que dans l'histoire du peuple juif, la nation a été sous la domination de l'Égypte, de l'Assyrie, de Babylone, de la Grèce, de la Syrie. Et au moment où ces gens s'adressent au Seigneur Jésus-Christ, ils sont sous le poids de la domination romaine. Les Romains occupaient leur ville. Ils les obligeaient à payer des taxes à César. Ils supervisaient les lois de la vie civile. Ces personnes étaient entourées de faits, de réalités, qui prouvaient qu'ils étaient une nation qui était soumise à l'esclavage de ceux qui les avaient conquis. Et à cause de cela, certains commentateurs pensent que ces personnes, dans leur réponse, parlent plutôt d'une liberté intérieure. Il est vrai que c'est la liberté, quelque chose que les Juifs considéraient comme un droit de naissance. Un commentateur va citer le premier recueil de littérature rabbinique qui commente la loi et qui dit ceci: « Même les plus pauvres en Israël sont considérés comme des hommes libres, ayant perdu leur possession. » Et la raison qu'il donne, c'est parce qu'ils sont fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si on considère simplement la réponse de ces gens, que ces gens donnent au Seigneur Jésus-Christ, on voit que leur réponse montre que le plus grand esclavage est celui dont on n'est pas conscient. Le plus grand esclavage est celui d'un homme qui croit être libre alors qu'il est dans les chaînes. Et c'est la condition de tout homme naturel, de tous ceux qui nous entourent aujourd'hui, qui insistent, qui sont des esprits libres ou qui sont des libres penseurs, alors qu'en réalité, ils sont esclaves de la culture pécheresse qui nous entoure. Les gens pensent qu'ils sont audacieux, qu'ils sont libres, quand en réalité, ils sont mis dans le moule de la conformité avec ce monde par les tendances populaires. Et la seule chose que ces personnes ne supportent pas, c'est la suggestion qu'elles ne sont pas libres. L'auteur Arthur Pink souligne que l'idée que l'homme a besoin d'être affranchi est une vérité que l'homme naturel ne peut pas accepter. La seule annonce de cette vérité attise l'hostilité dans son cœur. Pourtant, c'est la réalité qu'on voit ici démontrée par ces personnes qui repoussent avec indignation l'affirmation du Seigneur Jésus-Christ que la vérité vous affranchira. En fait, il n'y a pas de preuve plus claire de leur esclavage que le refus d'accepter le Fils de Dieu. Un peu plus haut, dans le chapitre 8, au verset 12, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais plutôt dans l'Évangile, au chapitre 3, verset 19, il dit « Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » L'esclavage de ces Juifs dans les ténèbres est tellement grand que même leurs privilèges, les privilèges que Dieu leur a donnés comme nation, qu'il a choisi, ces privilèges sont devenus des pièges. Ils ont présumé de leur statut devant Dieu, et en faisant cela, ils ont rejeté le Sauveur que Dieu avait pourtant promis d'envoyer dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament. Et depuis la prison de leur incrédulité, ils crient « Nous sommes la postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Jésus va répondre avec une de ces déclarations importantes que l'on trouve dans l'évangile de Jean. On sait que c'est important parce qu'il commence avec les mots « en vérité, je vous le dis ». Il révèle ce que cet esclavage est, ce que cet esclavage que l'homme refuse de voir. En vérité, verset 34, « en vérité, je vous le dis », le répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est le deuxième point. Esclave du péché, c'est le plus grand esclavage dans lequel est pris toute la race humaine. Au cœur de tout autre esclavage, il y a ceci, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Jean Calvin commente, il dit « Esclave des désirs de la chair, il ne cesse de pécher. » Jésus parle ici de l'état de la nature humaine. Et pourquoi péchons-nous? Beaucoup de personnes disent, répondent, parce que nous faisons les choses que nous aimons. Quoi qu'en disent, quoi qu'en pensent les autres, le péché, c'est l'expression de notre liberté. Mais ces personnes ne se demandent pas pourquoi elles aiment commettre le péché. Et la réponse, c'est parce que notre nature est esclave du péché. Cette nature humaine est esclave du péché. Pour citer Arthur Pink encore une fois, la condition de l'homme naturel est pire qu'il ne l'imagine. L'homme est une créature déchue, totalement dépravée. Rien n'est en bon état de la plante des pieds jusqu'à sa tête. Là, il cite Ésaïe 1, verset 6. Il est totalement sous la domination du péché, asservi à toute espèce de convoitise. Il cite Tite 3, verset 3. De sorte qu'il est insatiable de péché. De Pierre 2, verset 14. Et c'est dans cet enseignement-là que la Bible s'oppose avec la pensée du monde. La Bible insiste que l'homme n'est pas bon. Que l'homme est pécheur. Oui, Dieu a créé l'homme bon. Dieu a créé l'homme parfait, Genèse 1. Mais nous sommes tombés dans le péché. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Non, nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Ce ne sont pas nos actes qui font de nous des pécheurs. Mais nous péchons parce que la source, parce que le cœur est pécheur et mauvais. C'est pour ça que nous ne connaissons personne qui ne commette pas de péché. On ne peut pas rejeter la faute sur l'environnement ou sur la mauvaise éducation parce qu'un enfant, quel que soit le milieu dans lequel il grandit, il commence à pécher dès qu'il peut agir de manière indépendante. Le roi David, d'ailleurs, a écrit dans le psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est pour cette raison que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 3, versets 10 et 12, et encore une fois, il cite l'Ancien Testament, et il dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et c'est de là qu'on tire l'enseignement du péché originel. Le péché originel, ce n'est pas tellement le premier péché qu'ont commis Adam et Ève, c'est plutôt l'état dans lequel ce premier péché a mis toute la descendance. Le péché originel, ce n'est pas un problème que connaissaient Adam et Ève, c'est un problème que nous connaissons. Adam et Ève ont été créés parfaits, ils ont chuté. Nous, nous ne connaissons rien de la perfection. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés esclaves au péché. Nous héritons notre nature pécheresse de nos parents. Martin Lloyd-Jones, un pasteur gallois du XXe siècle, dit ceci, « Le monde est dans un esclavage indescriptible. Oh, la puissance de ces ténèbres! Pourquoi continuons-nous à faire les choses que nous savons être mauvaises? Pourquoi faisons-nous les choses qui, nous le savons, vont nous faire du mal? Pourquoi faisons-nous ces choses alors que nous connaissons leurs conséquences? » La réponse, c'est la puissance dominatrice du péché. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Nous sommes esclaves, mais pas seulement par notre état que nous avons hérité de nos parents, mais aussi à cause de nos péchés que nous commettons. Quand notre cœur nous pousse d'abord à jouer avec le péché, on pense, on est même sûr, de pouvoir maîtriser la situation. On pense être le maître, le péché notre serviteur. Et on apprend très rapidement que c'est le contraire qui est vrai. Qu'est-ce qui fait que le péché nous emmène toujours au-delà de là où nous voulions aller? Il nous garde plus longtemps prisonniers que nous ne le pensions. Parce que s'exposer au péché, c'est s'exposer à l'esclavage. Au début, on va résister à la tentation. Mais quand on a cédé, notre résistance s'affaiblit. Jusqu'au point où il n'y a plus besoin de tentation. On vit dans le péché. En peu de temps, l'homme perd la force de faire ce qu'il aime. Il devient esclave de ses habitudes, de ses laisser-aller, de ses plaisirs mauvais qu'ils l'ont finalement maîtrisé. C'est pourquoi Jésus dit, « Si donc le Fils vous affranchit, nous devons être libérés, sinon nous périssons dans nos péchés. » Un peu plus tôt, verset 24, il dit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous libérer de cet esclavage du péché. Si nous ne croyons pas en lui, si nous ne sommes pas unis à lui par la foi, nous allons continuer dans l'esclavage du péché. Et nous terminerons nos vies sous la condamnation de la juste colère de Dieu. C'est le point Que fait Jésus au verset 35? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Les Juifs avaient répondu au Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient nié leur besoin de libération sur la base qu'ils étaient les enfants d'Abraham. Et Jésus leur rappelle qu'Abraham avait deux fils. Le premier, Ismaël, le premier-né d'Abraham, né de la servante Agar. Et quand Ismaël vivait dans la maison d'Abraham, sous la tente d'Abraham, il bénéficiait des provisions d'Abraham. Tout comme les pécheurs, esclaves de leur péché aujourd'hui, bénéficient de la providence de Dieu dans ce monde. Mais Ismaël n'était pas un fils libre. C'était le fils de la servante, de l'esclave. Et le temps est venu où il a été chassé hors de la maison d'Abraham. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Quand Jésus fait allusion à cela, il souligne que tous ceux qui se disent fils d'Abraham ne peuvent pas être acceptés par Dieu tant qu'ils demeurent esclaves du péché. Le deuxième fils d'Abraham, conçu par grâce dans le ventre stérile de Sarah, est Isaac. Isaac est resté dans sa vie, toute sa vie dans la maison d'Abraham. Et en tant que véritable enfant de la promesse, de la foi, il a hérité les bénédictions de l'Alliance. Et ça devait être un avertissement pour les pharisiens. Devant eux se tenait le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. S'ils continuaient à s'opposer à lui, ils seraient rejetés sans aucun espoir de salut. Qu'importe leur ascendance humaine. Comment pouvaient-ils avoir les droits des véritables enfants d'Israël, les véritables enfants d'Abraham, en recevant leur liberté par la foi? Par la foi en Jésus-Christ, tout comme Abraham et Isaac l'avaient fait, en croyant dans les promesses de Dieu. Dans son prologue, Jean écrit en Jean 1, chapitre, verset 12, en parlant de Christ, la parole, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voilà le message de Jésus. L'homme qui est tombé dans l'esclavage du péché peut trouver la délivrance et la liberté seulement en entrant dans la famille spirituelle de Dieu. Et on y entre par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand on pense à l'esclavage du péché, est utile de voir que la parole de Dieu en parle de deux façons, comme elle parle de deux façons par lesquelles le Seigneur Jésus nous délivre de cet esclavage. Et c'est le troisième point, la libération par le prix et par la puissance. La première façon dont la Bible parle de l'esclavage du péché, c'est de nous parler de la culpabilité du péché. Cette culpabilité qui nous conduit à être condamné par la juste colère de Dieu. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible parle de ce terrible jour du jugement où tout le monde sera jugé selon ses œuvres. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit que les pécheurs qui ne se repentent pas, qui ne viennent pas à Christ, s'amassent un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Romains 2, verset 5. Si Dieu est parfaitement juste, si la promesse de Dieu, c'est la promesse du jugement de Dieu, est promise contre tout péché, comment est-il possible pour un pécheur d'être libéré de sa culpabilité? Comment est-ce qu'il est possible pour un pécheur d'être libéré de sa culpabilité? Et la réponse que nous donne la parole de Dieu C'est la beauté de l'Évangile, c'est que le Fils de Dieu a racheté son peuple en payant le prix. Le prix par son sang qui a été versé à la croix. Nous sommes libérés de la colère de Dieu par un prix inestimable. Le prix du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour le paiement de nos péchés. Nos péchés ont accumulé une dette auprès de la justice de Dieu, de sorte que nous étions prisonniers de la colère de Dieu à venir. Mais Jésus a payé le prix en se livrant lui-même à la croix, en souffrant la colère de Dieu à notre place, en payant le prix pour libérer son peuple. L'apôtre Pierre a écrit en 1 Pierre 1, versets 18 et 19, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour nous libérer de la culpabilité du péché. Mais il y a une deuxième façon dont la Bible parle de l'esclavage du péché. Nous sommes retenus esclaves par notre culpabilité, mais nous sommes aussi esclaves du péché par le règne du péché. Jésus dit que nous sommes esclaves du péché, que nous ne sommes pas capables de résister à la force de notre propre corruption ou à la tentation du péché. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous libère en payant le prix de notre rançon, il nous libère aussi par sa puissance. C'est pourquoi Paul écrit dans sa lettre aux Romains chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et un peu plus loin, chapitre 8, verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alors que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous libérer de la culpabilité du péché, le Seigneur Jésus-Christ envoie son esprit pour nous libérer de la puissance du péché. Bien entendu, et nous l'avons vu dans notre étude sur la lettre aux Romains, pécheur qui vient à Christ pour connaître la délivrance peut encore être mis à l'épreuve, être troublé par le péché. Il peut et il va chuter, mais il ne peut plus être condamné. Il ne peut plus redevenir esclave. Parce qu'en Christ, nous sommes devenus fils, nous sommes devenus héritiers. Nous sommes rendus capables de résister, de refuser le péché, non pas avec nos propres forces, mais en comptant sur la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. En Christ, nous avons un nouveau maître, nous avons un nouveau service. Aux Éphésiens, chapitre 4, versets 22 et suivants. C'est en Christ que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En Christ, par sa puissance, et parce que Jésus nous a libérés de la culpabilité en payant le prix de notre rançon, nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Et parce qu'il nous a libérés du règne du péché et de sa puissance, nous n'avons pas à avoir peur de la vie. Mais cette libération ne peut être reçue et vécue que par la foi en Christ. Que par la foi en Jésus-Christ. En Jean 5, verset 24, le Seigneur dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En dehors de Christ, il n'y a aucun espoir pour éviter la sanction sur nos péchés. Jésus avertit, Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Mais au verset 36, il dit, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et ce qui nous amène au quatrième point, réellement libre. Cette libération en Christ est sans doute une des choses les plus merveilleuses dans le monde, peut-être même dans l'univers. Un pasteur anglais du XVIIe siècle, John Flavel, a écrit ceci. Qui aurait pu imaginer que ceux qui devaient tellement à Dieu qu'ils étaient incapables de le payer avec leurs propres souffrances éternelles, que ceux qui étaient sous la malédiction et la condamnation de la loi, ceux qui étaient sous la puissance et entre les mains de Satan, ceux qui étaient enchaînés avec un grand nombre de chaînes dans leur prison spirituelle, leur intelligence liée à l'ignorance, leur volonté liée à l'entêtement, leur cœur lié à la dureté impénétrable, leurs affections liées à des vanités envoûtantes, que de telles personnes soient rendues libres en dépit de toutes ces choses. C'est la merveille des merveilles. Et ce sera à juste titre une chose merveilleuse aux yeux des croyants pour toujours. Notre libération du péché, de la culpabilité et de la puissance du règne du péché est la plus grande liberté possible. Toute autre forme d'esclavage vient du péché. Lorsque nous sommes libérés du péché par le Fils, nous sommes réellement libres. Nous sommes libres de la crainte, sachant qu'en Christ, nous sommes devenus les enfants bien-aimés de Dieu, destinés à vivre dans la gloire pour toujours. Oui, la crainte peut nous toucher. Mais comme le dit le psalmiste dans le psaume 56, verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Nous avons la liberté, l'accès libre dans la présence de Dieu, la liberté d'un enfant qui vient devant son Père. Nous sommes libres, libres de l'influence contraignante de notre propre corruption. Nous ne sommes pas encore libres des épreuves, mais nous sommes libérés de la puissance des épreuves. Elles ne peuvent plus voler notre joie, parce que notre joie est en Christ. Et nous sommes libres de connaître Dieu, libres de le servir, accomplir le but de notre vie et la raison de notre existence, libres en Christ. Pour citer Arthur Pink encore une fois, l'homme du monde pense que devenir chrétien signifie renoncer à sa liberté. Il imagine qu'il sera entravé par de nombreuses restrictions qui annuleraient sa liberté. En réalité, c'est l'exact opposé qui se passe. Ce n'est pas celui qui est en Christ, mais celui qui est hors de Christ qui est esclave, prisonnier des liens de l'iniquité. Croyant, vient connaître ce que Paul décrit comme la liberté de la gloire des enfants de Dieu, Romains 8, verset 21. La liberté de participer à ce nouveau monde créé, né dans la résurrection du Seigneur Jésus. Et alors que l'Esprit Saint œuvre dans nos vies, que nous grandissons dans cette liberté en étant formés, transformés par la parole de Dieu, en demeurant dans la parole, la vérité nous affranchit. Nous devenons plus libres pour nous occuper des autres, être moins absorbés par nous-mêmes, libres de donner de notre vie pour les choses qui comptent réellement, libérés de la domination des habitudes et des désirs pécheurs, libérés pour porter les fruits de la grâce de Dieu dans nos vies. Voilà une raison pour laquelle tout pécheur devrait se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Il libère des esclaves. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pour ceux qui sont déjà à Christ, c'est une joie toujours plus grande de réaliser ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Contrairement aux Juifs qui répondaient et qui insistait auprès du Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous, nous pouvons dire avec joie, oui, nous étions esclaves. Nous étions esclaves du péché. Mais le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous a affranchis. Il nous a libérés de la culpabilité du pécheur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous a affranchis du règne du péché. Oui, nous chutons, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes fils, enfants de Dieu. Nous sommes libres de vivre pour lui, libres de le servir, libres de choisir ce qui est juste, libres de ne pas suivre ce monde, libres de continuer à grandir en demeurant dans la parole. Libres parce que c'est lui, le Fils, qui nous a libérés. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait. C'est lui seul qui l'a fait. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.